de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir chers auditeurs et auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, de la Radio République Indonésia diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, pour le moment de fin d'année, nous allons vous présenter un programme spécial de Kaléidoscope Général. Et un certain nombre de programmes, tels que le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le Kaléidoscope Général.
Bonsoir les auditeurs de la Voix de l'Indonésie, voici le Kaléidoscope 2022. Aujourd'hui, on commence par le 6 janvier 2022. Le ministre du Droit et des Droits de l'Homme, Yasona Halawli, a proclamé 2022 comme l'année du droit d'auteur. La déclaration a été marquée par le lancement de l'application d'approbation automatique d'enregistrement du droit d'auteur ou en indonésien par Setujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta ou abrégé en POPHC à Jakarta. POPHC est un système créé pour accélérer le processus d'approbation des droits d'auteur qui prenait auparavant environ un jour, one day service, à environ 10 minutes après avoir effectué un paiement. POPHC se fait en alignant le processus commercial d'enregistrement des droits d'auteur liés au principe déclaratif. La suite, le 17 janvier, le ministre de la Planification du Développement National, chef de Bapenas Suharto Bodo Arfa, a annoncé que le nom de la capitale de l'État ou IKN à Kalimantan Leste est Nusantara. Le nom a été choisi par le président Joko Widodo. Suharto a expliqué que le nom Nusantara a été choisi parce qu'il est connu depuis longtemps par la communauté au sens large, au niveau national et mondial, de sorte qu'il devienne une icône pour l'Indonésie. Il a ajouté que le nom Nusantara a également été choisi car il est capable de décrire la diversité de la République d'Indonésie. Pour information, le projet de loi sur la capitale de l'État, ou RUUIKN, devrait être achevé en janvier 2022. Actuellement, le gouvernement écoute activement les contributions de divers partis, y compris des universitaires, pour améliorer cette réglementation. La suite, le 24 janvier, le Conseil représentatif du peuple, ou DPR, le gouvernement et les organisateurs électoraux se sont mis d'accord sur un calendrier de vote pour les élections générales de 2024 qui se tiendront le 14 février 2024. Cet accord a été décidé lors d'une réunion de travail de la Commission 2 avec le ministre de l'Intérieur, la Commission électorale générale ou en indonésien, Komisi Pemilihan Umum ou KPU, et l'Agence de surveillance électorale générale ou Bawas Pemilu. Inaugurant ainsi le président de la Commission 2, Ahmad Doli Kurnia, lors de la lecture de la conclusion de la réunion. Nos factions de la DPR ont convenu à l'unanimité de tenir les élections de 2024 à cette date. Les élections de 2024 comprennent les élections présidentielles et vice-présidentielles, membres du DPR de la République d'Indonésie, membre du DPRD provincial, membre du DPRD de la région, de la ville et membre du DPD de la République d'Indonésie. Entre-temps, l'élection du gouverneur, région et du maire a été décidée le 27 novembre 2024. Ensuite, au mois de février, le 2 février, le président Joko Widodo a inauguré 7 ports de ferry et 4 navires à passagers motorisés ou en indonésien Kapal Motor Penumpang ou abrégé en KMP dans la zone de quai du port d'Ajibata, la région de Toba, Sumatra du Nord. Le président espère que les ports de ferry et les 4 navires à passagers motorisés qui ont été inaugurés pourront soutenir l'existence du lac Toba comme l'une des principales destinations touristiques en Indonésie. Selon le président, les ports de ferry et les navires à passagers motorisés sont nécessaires aux habitants du lac Toba pour soutenir leurs activités et leur mobilité quotidienne. Le 3 février, le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Yudo Margono, a inauguré la formation du commandement de la flotte, ou en indonésien Komando Armada, ou abrégé en Ko Armada, de la République d'Indonésie. L'inauguration a eu lieu au quai Ko Armada 1, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta du Nord. Yudo Margono a déclaré que la formation du Ko Armada visait à faire face aux défis et aux menaces dans les eaux indonésiennes, y compris la situation en mer de Chine méridionale. On a mentionné qu'il y a plusieurs points chauds dans la région occidentale, y compris la mer de Natuna, le détroit de Malacca, le détroit de Singapour, ainsi que la frontière avec l'Inde. Le vice-amiral TNI Agung Prasetyawan inauguré en tant que commandant du Commando Armada de la République d'Indonésie. Le 24 février, le gouvernement indonésien a exprimé 4 attitudes à l'égard du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette attitude a été exprimé par le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Tengku Faizaz Shah. Les 4 attitudes sont, premièrement, l'Indonésie est préoccupée par l'escalade du conflit armé sur le territoire ukrainien qui met gravement en danger la sécurité du peuple et a un impact sur la paix dans la région. Deuxièmement, l'Indonésie affirme le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies concernant l'intégrité territoriale du territoire d'un pays et condamne tout acte de violation du territoire et de la souveraineté d'un pays. Troisièmement, l'Indonésie réaffirme que toutes les parties continuent de donner la priorité aux négociations et à la diplomatie pour arrêter le conflit et donner la priorité à un règlement pacifique. Quatrièmement, l'ambassade d'Indonésie a pris les mesures nécessaires pour sauver les citoyens indonésiens en Ukraine selon les plans d'urgence qui ont été préparés. La suite, au mois mars, le 10 mars, le président Joko Widodo a inauguré Bambang Susantono et Doni Rahajo en tant que chef et chef adjoint de l'autorité de la capitale Nusantara ou IKN au Palais d'État de Jakarta. Dans sa déclaration après l'inauguration, Bambang Susantono a déclaré que Doni Rahajo et lui allaient essayer de mener à bien la mission et le mandat en tant que chef et chef adjoint de l'autorité IKN aussi bien que possible. Conformément à la direction du président, les deux essayeront de construire IKN comme une ville qui peut refléter les villes indonésiennes dans l'avenir. Les programmes existants ne sont pas seulement construits physiquement, mais aussi pour construire une cohésion sociale, communautaire dynamique, vibrante, afin qu'elle devienne une ville pour tous. Le 20 mars 2022, l'Indonésie a accueilli la 144e réunion de l'Union interparlementaire, ou abrégée en UIP, à Nusa Dua, Bali, du 20 au 24 mars 2022. La 144e réunion de l'UIP a abouti à la déclaration de Nusa Dua qui reflète les efforts de mobilisation de l'action parlementaire pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique selon le thème discuté. Outre la déclaration de Nusa Dua, la 144e session de l'UIP a également produit une résolution sur la paix et une résolution sur les technologies de l'information. En outre, la réunion de l'UIP à Nusa Dua, Bali a également produit une résolution sur un point d'urgence qui contenait une résolution sur la paix liée à la guerre entre Russes et Ukraine. Cette résolution encourage le respect du droit international, les accords de l'Organisation des Nations Unies et l'intégrité territoriale. Après la clôture de l'UIP, le président du Parlement indonésien, Puan Maharani, a déclaré que l'Indonésie a joué un rôle important dans la rédaction de la résolution de l'UIP.
Indonesia, sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU.
Dès le départ, l'Indonésie a souligné l'importance du rôle central de l'UIP dans la recherche d'une solution équilibrée à la question ukrainienne en donnant la priorité au respect du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, de la cessation des conflits, du recours au dialogue et de la diplomatie dans l'aide humanitaire, ainsi que garantir un passage sûr aux réfugiés quittant l'Ukraine. Puan Maharani a en outre déclaré que l'Indonésie avait également réussi à convaincre les pays membres de l'UIP de former conjointement un groupe de travail qui travaillerait spécifiquement à promouvoir la paix entre la Russie et l'Ukraine. Outre l'élaboration d'un certain nombre de résolutions, la 144e réunion de l'UIP a également abordé un certain nombre d'autres questions d'intérêt commun. Selon Puan Maharani, lors d'une série de réunions de l'UIP, l'Indonésie encourage également l'intégration du genre et la participation des femmes parlementaires et des jeunes parlementaires à la prise de décision. Le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée au palais présidentiel de Bogor, Java de l'Ouest. Dans un communiqué de presse après la réunion, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était prête à rouvrir le poste frontière avec le Papouasie-Nouvelle-Guinée. Afin d'accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment dans la zone transfrontalière. Les deux chefs d'État ont discuté des efforts visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines et échangé sur la coopération dans la région du Pacifique. Le président Joko Widodo est optimiste sur les efforts pour relancer l'économie après la pandémie de COVID-19 et l'augmentation des opportunités commerciales grâce à la réouverture de la frontière de la République d'Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée à Skowutung, le district de Muara Tami, ville de Jayapura.
Passons à l'avril, Le 22 avril, le président Joko Widodo a annoncé vendredi que le gouvernement indonésien interdisait l'exportation d'huile de cuisson et de ces matières premières qui entraient en vigueur à partir du 28 avril 2022 jusqu'à une date limite indéterminée. La décision a été prise après que le président ait présidé une réunion à laquelle ont participé des rangs ministériels pour discuter de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Le président Joko Widodo, dans une déclaration diffusée sur la chaîne YouTube officielle du secrétariat présidentiel, a promis de surveiller et d'évaluer directement la mise en œuvre de cette politique. Le président a souligné que cela avait été fait pour que la disponibilité de l'huile de cuisson dans le pays soit abondante à des prix abordables. Le 29 avril, le président de l'Assemblée consultative du peuple de la République d'Indonésie, MPRRI, Bambang Susatyo, a inauguré le monument au quatrième pilier de la République d'Indonésie à Taman Agung Proklamasi à Bali. Bambang Susatyo, dans sa déclaration, a déclaré que les quatre piliers du MPRRI consistaient en Pancasila comme base de l'État, la Constitution de 1945 de la République d'Indonésie comme base constitutionnelle, l'État unitaire de la République d'Indonésie comme consensus de la forme de la souveraineté d'État et Bhinneka Tunggal Ika comme devise unificatrice dans une nation pluraliste. Bambang Susatyo a déclaré que le monument au quatrième pilier de l'Assemblée consultative du peuple de la République d'Indonésie, MPRRI, est également en encouragement et en signe que les quatre piliers du MPRRI doivent continuer à être socialisés à différentes couches de la société afin qu'ils puissent construire une immunité identitaire et un caractère national fort pour conjurer diverses menaces virales idéologiques qui peuvent diviser le pluralisme de la nation et la souveraineté de l'Indonésie. Passons au mois de mai. Le 10 mai, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a reçu la visite du chef d'État de l'armée de terre de Singapour, le général de brigade David Leo, dans son bureau de Jakarta. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a souhaité que la coopération et l'amitié entre l'Indonésie et Singapour puissent être maintenues dans l'esprit de fraternité ainsi que le principe du respect mutuel. La coopération de défense entre les deux pays peut être développée dans d'autres secteurs tels que l'industrie de la défense et la cyberdéfense. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a également salué la visite du chef de l'armée de Singapour, diplômé de l'école d'état-major et de commandement de l'armée de terre indonésienne, ou SESCOAT. Cela marque également la qualité de SESCOAT reconnue par les forces armées de Singapour. Du 11 au 13 mai, le président Joko Widodo s'est rendu aux États-Unis pour participer au sommet spécial ASEAN-États-Unis, AUSS. Au cours de la visite, le président Joko Widodo a également eu une rencontre avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Dans ses remarques, lors d'un déjeuner de travail avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, au département d'État américain à Washington, D.C., le président Joko Widodo a souligné l'importance de renforcer le partenariat entre l'ASEAN et les États-Unis pour anticiper une pandémie à venir. Selon le président, il y a quatre choses qui doivent être faites pour terminer le travail. Premièrement, la coopération dans la construction d'un système de détection précoce plus efficace. Deuxièmement, la coopération forme un tampon d'inventaire médical régional. Troisièmement, l'indépendance de l'industrie régionale de la santé. Quatrièmement, le financement régional de la santé pour le biais du Fonds de réponse de COVID-19 de l'ASEAN. Le président Joko Widodo a souligné que pour renforcer la résilience sanitaire mondiale, il est nécessaire de renforcer la résilience nationale et régionale. Dans ce cas, les États-Unis peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la résilience sanitaire au niveau national, régional et mondial. inauguration au mois de juin. Le 6 juin, le président Joko Widodo a reçu la visite du premier ministre australien Anthony Albanese au palais présidentiel de Bogor à Java Occidental. Les deux chefs d'État ont discuté de 5 sujets de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays qui sont mutuellement bénéfiques dans le domaine économique et d'investissement. Premièrement, l'importance d'élargir l'accès aux exportations indonésiennes à haute valeur ajoutée. L'Indonésie souhaite que l'accès à l'exportation vers le pays kangourou reste ouvert. Deuxièmement, la mise en œuvre de l'ACEPA, en particulier liée à l'augmentation des opportunités pour les citoyens indonésiens WNI de travailler en Australie, y compris l'augmentation du quota de visa vacances-travail à 5 000 participants par an. Troisièmement, la coopération dans les domaines d'éducation et de santé entre les deux pays. Quatrièmement, renforcer la sécurité alimentaire. Cinquièmement, les efforts pour maintenir la durabilité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, y compris le blé au milieu d'une situation mondiale très difficile. Le 15 juin, le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, qui est également ministre de la Santé et de la Protection de l'Enfance, est arrivé à Jakarta pour une visite de travail d'une semaine en Indonésie. Le 17 juin, le vice-président Chiwenga a rencontré le vice-président indonésien Maruf Amin. Au cours de la réunion, Maruf Amin a espéré qu'il y aurait une coopération accrue entre l'Indonésie et le Zimbabwe dans divers domaines allant de l'économie à l'armée. Maruf Amin a également encouragé un équilibre commercial avec le Zimbabwe, dont l'un était l'exportation de matières premières indonésiennes. Dans le secteur stratégique, Maruf Amin a également déclaré que l'Indonésie a la capacité de produire des équipements militaires tels que des véhicules et des armes et des équipements non militaires de Pindad Société Anonyme pour la modernisation de l'armée du Zimbabwe. En accord avec Maruf Amin, le vice-président Chiwenga espère que l'Indonésie pourra aider son pays à développer les infrastructures, en particulier à revitaliser le secteur ferroviaire à travers la coopération avec plusieurs entreprises d'État apparentées. Chiwenga a déclaré que la coopération dans le secteur de la défense avait également été renforcée par des échanges, des visites et des formations entre les industries de la défense. Le 21 juin, le président Joko Widodo a reçu une visite de courtoisie du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au Palais Merdeka à Jakarta. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président, a déclaré que le directeur général de l'OMS avait exprimé son appréciation pour les réalisations de l'Indonésie pour surmonter la pandémie de COVID-19 en Indonésie. Selon Tedros, l'Indonésie est l'un des pays avec les meilleures réalisations dans le domaine de la vaccination par rapport aux autres pays du monde. Retno Marsudi a ajouté que le directeur général de l'OMS a également évalué que le système de santé principal et l'assurance maladie obligatoire indonésie fonctionnaient bien. Ces résultats, c'était le kaléidoscope de janvier à juin 2022. Nous nous retrouverons demain avec le kaléidoscope de juillet à décembre 2022. Merci de votre attention. À bientôt.
Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de retard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
«
Ces auditeurs, le 17 décembre, l'aquarium Indonesia Pangandaran a été officiellement ouvert au public. Il est situé à Babakan, dans le district de Pangandaran, la résidence de Pangandaran, Java Occidental. Il existe divers animaux marins et biotes. L'aquarium a été créé par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche. Il fonctionne tous les jours. En semaine, il ouvre de 9h à 16h. Le week-end, il ouvre à 8h30 à 15h30. Pour le prix du billet, vous ne payez que 40 000 roupias par personne en semaine et 50 000 roupias par personne le week-end et les jours fériés. Ces auditeurs, l'aquarium Indonesia Pangandaran n'est pas seulement le plus long aquarium concave d'Indonésie, mais aussi la plus grande fenêtre d'aquarium d'Indonésie. Cet aquarium mesure 47,5 mètres de long. Pendant ce temps, la fenêtre de l'aquarium est d'environ 33 mètres. Les espèces de poissons de l'aquarium Indonesia Pangandaran proviennent non seulement de la mer de Pangandaran elle-même, mais aussi de l'extérieur de la mer de Pangandaran. Il y a des raies, des étoiles de mer et plusieurs types de poissons de récif corallien tels que les sergents majors et les poissons botaniques. Tous les types de poissons doivent être mis en quarantaine avant d'être placés dans l'aquarium. Ces auditeurs, lorsque vous entrez dans l'aquarium Indonesia Pangandaran, un aquarium cylindrique d'une hauteur de 7 mètres et d'un diamètre de 5 mètres vous sera présenté. Il existe différents types de petits poissons qui vivent en groupe. De plus, près de l'entrée, il y aura également des aquariums thématiques. L'un d'eux est un aquarium fait de voitures. Ensuite, vous monterez les escaliers qui entourent l'aquarium cylindrique. Au deuxième étage, il y a le musée Ibu Rempah ou Mère Épice. Le musée présente diverses histoires. L'un d'eux est lié à l'âge d'or de Nusantara. Près du musée Ibu Rempah, il y a aussi un kolam sentuh ou les tangtus, contenant une vie marine sur comme des étoiles de mer, des tortues, des requins bambous et d'autres biotes marins. Vous pouvez participer à nourrir ou toucher les poissons de l'étang. Après avoir traversé le kolam sentuh, vous arriverez à un aquarium concave d'environ 47 mètres de long. Lorsque vous vous promenez, vous semblez être au milieu de la mer. Enfin, vous arriverez à l'aquarium principal ou au plus grand aquarium vitré d'Indonésie, qui s'étend sur 33 mètres de long. Une variété de grands biotes marins tels que les requins, les raies et les tortues vivent dans l'aquarium. C'est Jodital, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Tetap begitu, apapun terjadi. jadi dirimu diriku menyatu padamu hatiku berlabuh cintaku sejati
ini janjiku janji setiaku sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati. Apapun terjadi, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh, cintaku sejati.
Voice of Indonesia.
Begitu cerah, matahari berseri. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam? Burung bersiul mengepakkan sayap, tapi kenapa hatiku gundah tak berasa? Tolong engkau mengerti aku bahwa ku cinta.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Festival de Jazz de Prambanan 2023. Le Festival de Jazz de Prambanan se tiendra à nouveau en juillet 2023 au Temple de Prambanan à Yogyakarta, Java Central pendant 6 jours. Le Festival de Jazz de Prambanan 2023 sera divisé en deux week-ends, à savoir les 7, 8, 9 et 14, 15 et 16 juillet. Le fondateur du Festival de Jazz de Prambanan, M. Anas Syahrul Alimi, a déclaré que la durée supplémentaire de cette activité était de fournir plus de divertissement au public. Anas Syahrul Alimi a déclaré qu'il y avait 9 musiciens internationaux et 60 musiciens nationaux qui étaient prêts à divertir le public. Le Festival de Jazz de Prambanan porte le thème Culture pour l'avenir, qui est présenté avec le concept L'expérience magique. Le thème est basé sur la compréhension que la culture est une chose importante pour l'avenir. Avec le concept de l'expérience magique, le public est censé faire l'expérience d'une musique imaginative et inspirante en direct. Anas Syahrul Alimi garantit que les personnes qui regardent le Festival de Jazz de Prambanan gagneront de l'expérience incroyable. Le Festival de Jazz de Prambanan 2023 s'apprête à accueillir Gemini, une chanteuse sud-coréenne, pour divertir les jeunes qui aiment la musique hip-hop. Anas a déclaré que les artistes hip-hop ont été choisis parce que le Festival de Jazz ne doit pas seulement présenter de la musique jazz. Il a donné l'exemple dans certains nombres de festivals de jazz à l'étranger qui ne présentaient pas tous les genres de musique jazz. Il y a 2 à 3 artistes qui interprètent des chansons en dehors du genre jazz. Outre des artistes de Corée du Sud, le festival qui se tiendra au Temple de Prambanan dans le centre de Java mettra également en vedette des artistes du Pakistan et d'Arabie Saoudite. Il y a aussi le Gypsy King, un groupe de musique légendaire de France. Outre le Gypsy Kings, il y aura des musiciens de New York, des États-Unis, d'Amérique, Lucky Chop, le musicien de Broadway et de swing jazz, Scott Bradley, se produira avec Postmodern Jukebox et Bond. Les musiciens nationaux qui aimeront la scène sont Kahitna, Malik and the Essential et Dewa 19. Chers amis, c'est à la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
sahabatku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Avec moi, Audrey, ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Myriam Belina, intitulée « Symphonie Rindu ». En plus d'être connue comme actrice, Myriam Bellina est également douée pour le chant. En tant que chanteuse, elle a sorti pas mal d'albums, à commencer par son premier album intitulé Symphonie Rindu. L'album qui est sorti en 1983 a une chanson principale avec le même titre que le titre de l'album, Symphonie Rindu. Cette chanson, composée par Panche F. Ponda, raconte l'histoire d'une mélodie symphonique au ton sombre qui ajoute au sentiment de tristesse lorsqu'elle est entendue par quelqu'un qui a été abandonné par son idole. Bon, cher Gétard, voici Myriam Bellina va chanter une chanson intitulée Symphonie Rindu. Bonne écoute! Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.